Alors, voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Donc on a... J'ai mis ce petit passage en intro parce que, à mon sens, il résume assez bien, finalement, le pharisien qui va toujours être en discussion avec la vérité, qui va toujours chercher alors qu'est-ce que la vérité et essayer de vérifier finalement. Voilà, c'est un petit peu ce qui fait le charme du pharisien, quoi. Ils vont entendre parler de Jean-Baptiste et puis ils vont dire, bon, bah, comment on peut intégrer ce gars-là qui se dit prophète et dans quel cas on le met, quoi. Parce que, voilà, nous sommes des gens qui étudions, qui nous intéressons, voilà. Et puis on a à la fin de l'évangile, Judas qui, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit avec des lanternes, des torches, des armes. Donc on voit que les pharisiens, du coup, ont à nouveau envoyé des personnes, mais non pas pour étudier une question, mais pour exécuter une sentence. Parce que ils estiment que Jésus est devenu dangereux pour la doctrine, pour le groupe, en fait. Voilà. Et donc ça veut bien dire qu'il y a un risque, semble-t-il. Il y a quelque chose qui a été faussé dans cette manière de rester un bon pharisien. Voilà. Alors, merci Nathalie qui m'a envoyé des clés, parce que hypocrite, enfin en grec, hypo c'est en dessous et kritai c'est le dit de Dieu. Voilà, donc c'est en dessous du dit de Dieu, de la parole, enfin du dit de ce que Dieu nous dit.
Demande.
Ouais. Et après, on a aussi le verbe hypokrinain qui signifie soumettre à une enquête, interroger. Et donc, quand Jésus traite les pharisiens d'hypocrites, il leur reproche de rester en dessous de leur mission de pharisiens, qui est de faire des interprétations justes de la Torah et de ses propres paroles, et donc de n'être pas assez pharisiens, de n'être pas assez ceux qui confrontent tout à la réalité pour pouvoir faire vivre la loi, en fait. Voilà. Donc, je dirais que de mon côté... Là, je vais parler très brièvement des pharisiens, mais c'est pas vraiment l'objet, finalement. J'essaie vraiment de voir ce que Jésus se frotte autant aux pharisiens. Parce que on dit qu'il aime bien, châtie bien, donc c'était pas ses ennemis, les pharisiens. C'était d'abord, finalement, peut-être ceux qui, normalement, étaient les plus proches de lui, quelque part. Moi, c'est ce que je pense.
Il était pharisien.
Voilà, Jésus était pharisien. Et donc, c'est vrai que d'où vient le parti pharisien ? Si on résume de manière très grossière, on pourrait dire peut-être que c'est suite à l'exil, c'est une partie du peuple juif, les plus instruits peut-être, qui se sont dit il faut que nous puissions maintenir la doctrine juive pour ne pas qu'il y ait une dispersion de cette doctrine et une dilution, et qui ont veillé jalousement sur la doctrine juive. En fait, si on doit faire un résumé un peu... Et qui, à l'époque de Jésus, continuait à transmettre cette doctrine, à enseigner, à faire en sorte de voir comment appliquer les commandements de la Torah et les conséquences des commandements de la Torah, parce qu'il y avait aussi les 613 commandements, enfin les 613 mitzvot.
Ça s'appelle les commandements.
Ouais, les commandements, voilà.
Non, c'est la façon d'appliquer les 10 paroles de vie.
Voilà. 613. C'est toute la loi juive dans le sens large.
Il y en a plein qui sont dans le Lévitique. Ouais. Mais on ne peut pas dire qu'au moment de Babylone, c'était la doctrine qu'ils voulaient garder, c'était simplement la parole.
La parole, c'était là,
parce qu'ils n'avaient pas encore le texte écrit à Babylone. Il y avait simplement le Lévitique, enfin toutes ces lois des prêtres qui étaient écrits pour le temple, etc. Mais pour le peuple, pour les gens, tout était oral. Mm. Donc ils ont voulu vraiment mettre par écrit, et c'est ça ce qu'il a fallu après enseigner aux gens, parce que était-il encore capable de comprendre à l'époque. Donc les pharisiens, c'est ça, c'était les lettrés qui étaient capables de retenir les écrits et de les interpréter.
Mm. Et de les enseigner.
Et les transmettre, les enseigner et de les interpréter.
Voilà. Donc,
c'est pas du tout des prêtres.
Donc la question, c'était pas des prêtres à la base, mais justement, en étudiant finalement ce que disent les évangiles sur les pharisiens, il m'a semblé, et je vais vous montrer pourquoi par la suite, en quoi le pharisien, pris isolément, désigne la dimension de prêtre que tout homme a en lui, puisque on est prêtre, prophète et roi, et que la capacité de prêtre a été dégradée par le péché, et donc l'homme et la femme, mais l'homme au sens large, est devenu incapable par lui-même d'exercer son rôle de prêtre, son rôle de, finalement, de... Enfin, on va dire un petit peu ce que c'est. Et il y a une restauration de ce rôle de prêtre avec le baptême, et Vatican II a redit « on est prêtre, prophète et roi par le baptême ». Mais je pense que quand on lit Vatican II, on peut être tenté de dire « ne sont prêtres que les gens du peuple de Dieu », donc les juifs et puis les chrétiens à leur suite. Alors qu'il me semble bien que le prêtre, c'est d'abord une capacité que le Seigneur a mise dans l'homme au départ. Voilà. Et le prêtre, c'est de manière imminente celui qui a reçu un sacrement spécial pour booster, exhaler son rôle de prêtre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire la même chose qu'un homme tout court et qu'un baptisé encore plus. Il va le faire de manière beaucoup plus parfaite parce qu'il reçoit une grâce particulière, une présence du Christ particulière pour être prêtre. Voilà. Donc, à mon sens, le pharisien, ça représente ça et je vais m'en expliquer.
Oui, parce que les prêtres à l'époque de Jésus, c'était des sacrificateurs.
Tout à fait.
C'est tout.
Oui. Si on peut expliquer aussi le pourquoi un prêtre, par exemple, qu'il soit bon ou mauvais, ou dans un état de grâce ou pas, il célèbre la messe et puis ça, le Christ vient, c'est que le prêtre, c'est un peu comme celui qui est dans une salle des vannes et qui va avoir reçu de la main du Seigneur la compétence d'ouvrir la vanne de la grâce. Voilà. Et donc, quand on est prêtre de l'Église, on ouvre des vannes avec un réservoir immense de toutes les grâces de l'Église et on fait déferler les sacrements sur l'Église.
Ouais.
Quand on est chef de famille, on est dépositaire des grâces de la famille. C'est-à-dire que on a nos ancêtres depuis 1000 générations dont on détient les grâces et on a tendance finalement à, de manière un peu simpliste, à dire le prêtre, c'est pas moi quoi. Alors que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et c'est pour ça que quand on bénit nos enfants, par exemple, on a bien toutes les grâces familiales qui viennent sur nos enfants parce que c'est à notre tour d'avoir en main les vannes de la grâce. Et dans les familles, effectivement, on a ceux qui vont avoir une capacité d'ouvrir la vanne plus fortement, d'avoir une plus grosse vanne de famille, peut-être. Dans le judaïsme, en tout cas, c'est dit comme ça, c'est l'aîné, c'est celui qui a reçu la bénédiction paternelle. Celui qui a reçu la bénédiction paternelle, c'est comme s'il avait reçu la clé de la salle des vannes, en fait.
Il a reçu
quelque chose de spécial pour pouvoir déchaîner les grâces familiales. Et c'est pour ça aussi que Ésaü, qui était... Normalement, c'était l'aîné.
Ouais.
Normalement, c'était l'aîné. Mais Ésaü, la tradition juive, dit que c'était quelqu'un de complètement perverti.
Ouais.
Et que finalement, Jacob était celui qui était fidèle à la grâce familiale. Voilà.
Ouais.
Là, je le dis avec mes mots, mais c'était celui qui étudiait, qui écoutait sa mère et qui entretenait un vrai lien avec sa mère. Et qui allait dans les assemblées, qui priait, qui étudiait la Torah, etc. Enfin, qui n'était pas forcément mise par écrit, mais qui... Voilà. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le prêtre. Et on est prêtre aussi pour les gens qui dépendent de nous, dans notre travail, dans notre environnement. Ça évite de faire une mauvaise interprétation, de dire, ben, vous les laïcs, vous êtes en train de vouloir voler aux prêtres leur rôle, alors que non, un prêtre, il a peut-être une vanne plus grosse dans les mains, mais le Seigneur fait en sorte que la grâce se répande et que quand les personnes ne jouent pas leur rôle, le Seigneur va répartir l'eau qui a envie de couler quand même d'une manière différente. Voilà. Et donc, il y a des époques où le rôle de prêtre se répand. Et avant l'époque de Jésus, c'est ce qui s'est passé notamment avec les pharisiens qui, comme un certain nombre de prêtres, comme on le voit avec Anne et Caïphe, ne jouaient pas forcément leur rôle, les pharisiens se sont mis à recevoir de manière forte les grâces pour intercéder comme prêtres. Parce que c'est eux quand même qui avaient le mérite de lire la parole et de la transmettre.
Ouais.
Ils avaient ce mérite-là, et la plupart, enfin, je pense, ils le faisaient avec bonne volonté, avec foi, avec zèle, avec... voilà. Et donc c'est pour ça aussi que Jésus se frictionne avec eux dans les évangiles, c'est parce que finalement, c'est peut-être ceux qui arrivaient le mieux à le faire quand même, mais malgré les mauvais côtés pointés par l'évangile.
Bah, c'est surtout que... Quand tu as deux juifs ensemble, ils discutent, ils se posent des questions et ils ne sont jamais d'accord. Donc Jésus discutait comme ça avec tout le monde, mais surtout avec les pharisiens qui avaient le même enseignement que lui. Les pharisiens, à part ceux qui étaient proches des grands prêtres politiques, les pharisiens aimaient ces jours oratoires. Ils aimaient beaucoup. Mmh. Ça faisait partie de leur quotidien. Mmh. C'est une façon de continuer l'étude. De même que nous, on discute comme ça. Mais ce que tu dis effectivement, du père de famille, ça a toujours existé dans le judaïsme. Mmh. Ça vient d'Abraham. Mmh. Ça vient d'Abraham. Et chaque père de famille, encore aujourd'hui, quand il fait Shabbat le soir chez lui, il est le prêtre. Et il bénit sa femme et ses enfants. Mmh. Oh, il bénit le pain, il bénit le vin, mais c'est incroyable.
Tout à fait. Et donc finalement, Ésaü, on pourrait imaginer que s'il avait reçu la bénédiction paternelle, il aurait maintenu la vanne fermée. Parce que quand on ne s'appuie pas sur le Seigneur, c'est comme si on disait, bon bah la grâce, ils n'en ont pas besoin. Regardez, chasser, ça suffit. Courir les filles et être le plus fort, le plus violent, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de Dieu, quoi. Et Dieu, donc du coup, a fait... Enfin, il a fait en sorte, Jacob. Voilà.
Ouais. Et surtout, quand il y a eu cette rencontre juste avant le Yabok, là, Dieu a bien confirmé que c'était ce qu'il voulait. Il voulait la bénédiction de Jacob avant qu'il retourne en terre promise. Ce sont les études des deux dernières semaines, si ça vous intéresse. Ce qu'on appelle la paracha, la partie de qu'on doit lire et qu'on doit étudier chez les juifs. Et si vous avez des sites, si vous tombez sur des sites, vous pouvez trouver les explications. C'est assez intéressant.
Donc toujours dans l'intro, je vais rappeler les quelques rôles des prêtres d'après l'Ancien Testament. J'avais fait une conférence d'une heure et demie sur ce que c'est que d'être prêtre pour un laïc aujourd'hui. C'était il y a quelques mois. J'étais étonné de voir à quel point la principale clé d'interprétation de ces textes, c'est ces rôles-là, justement, qu'on va retrouver et je vais vous le montrer.